Et donc, je remercie et je donne la parole à notre ami le pasteur Bruno Gérard, pasteur de l'église protestante de Genève, qui va respecter parfaitement, apparemment, le projet de cette semaine thématique qui est de partir quand même du texte biblique pour développer le sujet politique et religion. Donc voilà, il a la parole et après ça sera à vous d'avoir la parole pour des questions-réponses jusqu'à 13h30. Voilà, bonjour, bienvenue à tous et toutes pour cette dernière étude biblique de la semaine. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, j'espère que vous avez bien mangé parce que le texte d'aujourd'hui, ben, ce n'est pas un des textes les plus faciles de la Bible. Donc c'est un texte de l'Ancien Testament dans le livre des Juges. Alors peut-être on va en faire une première lecture comme ça, pour s'imprégner de ce texte. Ensuite, c'est toujours bien quand on lit un texte de peut-être donner ses premières réactions. Alors comme c'est moi qui ai la parole, c'est moi qui vais dire mes réactions. Ensuite, on étudiera un petit peu ce qu'on appelle le Sitzinleben de ce texte, c'est-à-dire son contexte, quand est-ce qu'il a été écrit, ce qu'il y a avant et après dans le texte biblique. Mais commençons donc par la lecture. Abimélec, fils de Yerubbaal, alla à Sichem trouver les frères de sa mère pour leur parler, ainsi qu'à tout le clan de la maison paternelle de sa mère. Et il leur dit « Parlez donc ainsi à tous les propriétaires de Sichem. Que vaut-il mieux pour vous? Être dominé par 70 hommes, tous fils de Yerubbaal, ou être dominé par un seul homme. Souvenez-vous que je suis, moi, de vos os et de votre chair. » Les frères de sa mère répétèrent toutes ces paroles d'Abimélec à tous les propriétaires de Sichem, et leur cœur opta pour Abimélec, car ils se dirent « c'est notre frère ». Ils lui donnèrent donc 70 sicles d'argent du temple de Baal-Bérit, avec lesquels Abimélec prit à sa solde des hommes de rien et des aventuriers, qui marchèrent à sa suite. Puis il entra dans la maison de son père, à Ophra, et il tua ses frères, les fils de Yerubbaal, 70 hommes à la fois. Il ne subsista que Yotam, le plus jeune fils de Yerubbaal, car il s'était caché. Tous les propriétaires de Sichem et tout le Beth Milo se rassemblèrent et allèrent proclamer roi Abimélec près du térébinthe de la stèle qui est à Sichem. On l'annonça à Yotam. Celui-ci alla se placer au sommet du mont Garizim. Il éleva la voix et cria, puis il leur dit « Écoutez-moi, propriétaire de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres s'étaient mis en route pour aller oindre celui qui serait leur roi. Il dit à l'olivier « Règne donc sur nous. » L'olivier leur dit « Vais-je renoncer à mon huile que les dieux et les hommes apprécient en moi pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent au figuier « Viens donc, toi, régner sur nous. » Le figuier leur dit « Vais-je renoncer à ma douceur et à mon bon fruit pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Les arbres dit alors à la vigne « Viens donc, toi, régner sur nous. » La vigne leur dit « Vais-je renoncer à mon vin qui réjouit les dieux et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres. » Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens donc, toi, régner sur nous. » Mais le buisson d'épines dit aux arbres, « Si c'est loyalement que vous me donnez l'onction pour que je sois votre roi, alors venez vous abriter sous mon ombre. Mais s'il n'en est pas ainsi, un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban. » Maintenant donc, si vous avez agi avec loyauté et intégrité en proclamant Abimélec comme roi, si vous avez agi correctement à l'égard de Yerubbaal et de sa maison, si vous avez agi envers lui selon le mérite de ses actions, alors que mon père a combattu pour vous, qu'il a exposé sa vie, qu'il vous a délivré de la main de Madian, vous, aujourd'hui, vous vous êtes levé contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils, 70 hommes à la fois, et vous avez proclamé roi Abimélec, le fils de sa servante, sur les propriétaires de Sichem, parce qu'il est votre frère. Si donc vous avez agi en ce jour avec loyauté et intégrité à l'égard de Yerubaal et de sa maison, trouvez votre joie en Abimélec, et que lui trouve sa joie en vous. S'il n'en est pas ainsi, un feu sortira d'Abimélec, et il dévorera les propriétaires de Sichem et le Beth Milo. Un feu sortira des propriétaires de Sichem et du Beth Milo, et il dévorera Abimélec. Jotham disparut en prenant la fuite, et il s'en alla à Béer. Il y habita loin de la présence d'Abimélec, son frère. Voilà, alors, les premières réactions, c'est, comme souvent dans l'Ancien Testament, c'est encore un texte très violent, une prise de pouvoir avec des fratricides. Il n'y a pas d'intervention de Dieu pour empêcher cela, pour empêcher le meurtre. Il y a aussi une situation familiale compliquée, hein, vous l'avez entendu. Il y a le patriarche Gédéon Yerubal qui se détourne de Dieu. Il y a ses 70 frères, on verra 70 frères avec un drôle de calcul. Il y a une concubine, une servante et son fils. Le pouvoir, l'argent, du sang, c'est un peu Dallas, ton univers impitoyable à Sichem. C'est ce que nous allons voir. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que personne n'est tout blanc ou tout noir. En fait, tout est gris. Et ça, on le voit déjà à la lecture du texte. L'histoire de Dieu avec son peuple ne sépare pas, surtout en politique, ce qui est dans le juste et le faux. C'est tout un peu, voilà, déséquilibre. Donc ça aussi, quand on parle de politique et religion, c'est un avertissement à nous garder des idées reçues et des translations directes qu'on pourrait faire du texte biblique pour les appliquer. Et puis, il y a au milieu cette fable. Une fable pleine d'ironie. Alors, pour tout vous dire, moi, j'ai étudié ce texte dans le cadre, avec des collègues à Genève, dans le cadre d'articles qui sortent sur l'humour de Dieu. Alors vous me direz, c'est peut-être les Genevois qui ont un drôle d'humour, mais il y a quand même pas mal d'ironie ici dans cette fable, qui, on va le voir, arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans ce texte. Mais cette fable aussi a, à mon sens, une double lecture, une lecture assez littérale qu'on comprend assez vite, une critique du tyran, et aussi une dimension plus métaphorique et symbolique qui peut nous guider en ce début de Semaine Sainte vers, voilà, une vision vers le Nouveau Testament et vers une montée vers Pâques. Voilà, alors, au niveau de la structure de ce texte, c'est assez simple. Il y a deux grandes parties. Vous avez du verset 1 à 6, il y a cette tentative d'Abimélec de convaincre ses oncles de Sichem du côté de sa mère de devenir par la force leur maître. Il tue ses 70 frères sur une pierre d'abattoir, il n'y en a qu'un qui réchappe, c'est Jotham qui s'est caché. Et cette partie finit par la proclamation de Abimélec comme roi par les notables de Sichem. Une grande deuxième partie qui nous mène de 7 à 21 avec une introduction et une interpellation des maîtres de Sichem par Jotham. De 8 à 15, on voit cette insertion de cette fable des arbres et du buisson. On pense d'ailleurs que c'est un ajout qui a été rajouté. Vous savez, ce texte biblique, il a sûrement connu plusieurs écritures. Ça a été une histoire qui a été transmise de bouche à oreille. Ensuite, il y a des gens qui l'ont fixé. Et ensuite, il y a d'autres gens qui sont repassés dessus et qui ont sûrement rapporté cette fable. De 16 à 20, il y a l'interprétation de la fable comme malédiction sur Sichem par Yotam. Et en 21, vous avez la fuite de Yotam de peur d'Abimélec. Alors maintenant, le livre dans, ce passage dans le livre des juges, qui fait partie de ce qu'on appelle les livres historiques avec Josué, avec les livres de Samuel et les deux livres des rois. Ce livre des juges, en fait, veut retracer l'époque autour de 1200 avant Jésus-Christ, après la conquête de Canaan par Josué, jusqu'à l'instauration de la royauté avec Saül. Alors, on pense que son écriture aurait commencé après 722. Alors, 722, c'est une date importante, c'est la chute du royaume du Nord. Donc voilà, et c'est le début pour ces Israélites de différentes invasions et aussi de déportations, notamment ensuite à Babylone. Si vous avez une Bible et notamment la Tob, vous avez à la fin un tableau chronologique qui peut être très intéressant de regarder quand vous abordez ce type de texte. On pense que ce chapitre 9 a été rédigé justement vers 722 et que c'est une critique en fait de ces rois qui ont abusé de pouvoir. On pense notamment à Sargon, voilà, qui ont été des tyrans et qui ont usurpé le pouvoir. Et il y a critique de cela. Maintenant, peut-être plus intéressant, ce qui se passe avant. Et ça va nous permettre de tomber dans cette curieuse histoire familiale. Alors, je vous invite à relire les chapitres 6, 7 et 8 des juges qui retracent le parcours de Gédéon. Alors, Gédéon, Yerubal, c'est le même. Parce que Yerubal, ça veut dire celui qui lutte contre Baal, qui lutte contre le culte de Baal, donc c'est pour ça qu'on lui a donné ce surnom. Donc Gédéon, Yerubal, c'est la même personne. Il a été choisi par Dieu pour délivrer Israël des Madianites, les fils d'Orion, qui apportent la désolation. Donc vous verrez dans ces chapitres 6, 7, 8, il y a un récit de vocation avec une structure assez classique. Il réintroduit le culte de Yahvé à la place du culte de Baal, ce qui lui vaut son surnom. Et grâce aussi à l'intervention divine, il gagne en s'alliant les régions aux alentours. Comme tout bon roi, enfin comme tout bon chef de guerre, il massacre aussi les habitants de la ville de Soukhot, qui ne l'a pas soutenu. Et alors, ce qui est peut-être assez intéressant pour nous et pour notre passage, c'est qu'il va châtier en fait les anciens de Soukhot avec un buisson d'épines. Voilà, donc ça vous dit pourquoi je souligne ça. Il apprend aussi que durant la guerre, ses demi-frères du côté de sa mère ont été massacrés. Et à la fin de ces conquêtes guerrières, en fait, les hommes d'Israël veulent choisir Gédéon pour roi. Mais il refuse en disant non, je laisse à Dieu le soin de vous gouverner. Il n'avait pas trop envie. Et contre ses conquêtes, il obtient une récompense en or. Et voilà, vous savez ce qu'il en fait? Ben, il en fait une statue pour une divinité qu'il fait vénérer par Israël dans sa ville d'Ophra. Pourtant, il a une nombreuse progéniture, on l'a entendu, 70 fils et plus Abimélec, avec une femme de Sichem, et il meurt de vieillesse comme un bon prophète, ayant permis 40 ans de paix. Voilà, alors, tout à l'heure je disais que personne n'est noir ou blanc, Gédéon Yerubal, qui répond à sa vocation, qui accomplit sa mission, c'était chasser les Madianites. Vous avez vu ce qu'il fait de la récompense qu'on lui avait accordée, et il arrête le culte à Yahvé et il reprend un culte pour les divinités. Et pourtant, il reçoit aussi des bénédictions, comme je l'ai dit. Ensuite, Israël se remet et reprend le culte de Baal. Et comme on l'a entendu dans ce texte, il manque de reconnaissance pour la maison de Gédéon. après la péricope que nous avons lue, après le texte que nous avons lu, la fin du chapitre 9 verra la malédiction de Yotam se réaliser. Sichem sera détruite par le feu pour la punir de trahison à son égard. En fait, les propriétaires de Sichem s'étaient ensuite alliés avec quelqu'un qui s'appelait Gaal pour des raisons économiques. Voilà. Et peut-être que la morale directe de cette histoire, c'est que de montrer comment un roi qui n'est pas choisi par Dieu, ben, finalement, est puni et ce qu'il avait choisi arrive à la destruction. Abimélec va mourir à son tour. Et lui, en fait, il est monté contre la ville de Thébets pour la raser. Et en s'approchant de la ville, il y a une femme qui ouvre une fenêtre et boum, qui lui balance une pierre. Elle a bien visé puisque Abimélec meurt. Alors il demande pour sauver un petit peu son honneur, parce qu'être tué par une femme quand on est un chef de guerre, c'est pas très bien. Donc il demande à un de ses acolytes de lui mettre un coup de lance pour sauver la... Voilà, c'est bon. Jusqu'où va la... certaines prétentions. La boucle est bouclée. Et pourtant, Abimélec aussi, quelque part, c'est une figure assez ambiguë parce que il a quand même réussi à devenir roi, à maintenir en paix pendant 3 ans Sichem et ses alentours, ce qui est quand même une gageure à cette époque. Il est nommé roi. Et par exemple, David le qualifie en 2 Samuel 11, 21 de guerrier valeureux. Alors là, encore une fois, Abimélec, qui n'est pas présenté ici sur son plus beau jour, il est aussi présenté par David comme quelqu'un de guerrier valeureux. Alors maintenant, je vous propose de plonger plus en avant dans le texte et de voir verset par verset ce que l'on peut y trouver. Alors, déjà, Abimélec, fils de Yerubal. En fait, là aussi, c'est déjà une ironie. Parce que Abimélec, ça veut dire mon père est roi. Voilà, c'est un nom ironique puisque je viens de vous dire que Gédéon Yerubal, son père, a refusé la royauté. Donc, déjà, vous voyez un petit peu là aussi un jeu de mots dans ce texte biblique. Bon, alors, Abimélec, il se rend à Sichem pour convaincre la famille de sa mère de le choisir pour chef contre ses demi-frères qui sont, eux, à Ophra. Alors, Abimélec, il est cananéen par sa mère, qui est une simple concubine, et israélite par son père. Alors, il va prendre un argument qui frappe, un argument qui touche, hein, c'est les liens du sang. Il dit « mes os et ma chair ». C'est une expression, par exemple, qui est forte, que l'on retrouve dans Genèse 2, quand Ève sort de la côte d'Adam, et Adam dit « elle est sortie de mes os et ma chair ». Voilà, donc il joue vraiment sur cette corde sensible. On voit que dans le verset 3, bah, qu'il a touché dans le mille, puisque les cœurs se tournent vers lui, vers Abimélec, et il est choisi par les maîtres de Sichem. Donc on voit là aussi un choix politique qui est guidé plus par des raisons de cœur, hein, il fait appel à l'émotionnel plutôt que sur la raison. Et sur la raison et sur peut-être une fidélité à ce qu'avait apporté Gédéon Yerubal au Sichémite. Et non seulement ils vont choisir Abimélec comme roi, mais ils vont lui donner les moyens, sonnant et trébuchant, pour accomplir son projet, en prenant dans le trésor païen de Baal 70 pièces d'argent. Alors, vous voyez, déjà, ça part mal pour lui, parce que il va fonder son autorité avec de l'argent de Baal. Donc, on voit déjà qu'il se condamne un petit peu tout seul. 70 pièces d'argent, hein, c'est 70... C'est ce qu'on appelle une métonymie, ça veut dire le tout, le global, ça veut dire en abondance et plus. Et avec cet argent, Abimélec engage des mercenaires, des hommes de rien, nous dit le texte. Il massacre en recourant au fratricide. Alors vous voyez, hein, il n'y a pas besoin de primaire ici, le moyen courant, c'est le fratricide. C'est beaucoup utilisé dans l'Ancien Testament et il tue Ses 70 demi-frères à Ophra. Alors, on voit aussi la symbolique, 70, donc, il anéantit totalement cette descendance de Yerubal. Et avec le symbole, une pièce d'argent, une vie. Voilà, c'est un peu cruel, mais c'est comme ça. Il y a quelque chose qui n'apparaît pas, en fait, dans le texte de la Tob, c'est que, en fait, dans le texte hébreu, vous avez qu'ils sont sacrifiés, je m'excuse de mon accent quand je dis l'hébreu, c'est Haben Hol, ça veut dire qu'ils sont sacrifiés sur une pierre, hein, un peu comme, comme un sacrifice humain. C'est, ça n'a pas été traduit dans le texte de la Tob. Voilà. Il sacrifie ses demi-frères sur une pierre. Rappelez-vous comment il meurt à la fin. Il se prend une pierre dans la tête. Donc là aussi, la symbolique qui continue. Donc il tue ses frères sur cette pierre. Un seul en réchappe, Yotam. Là aussi, intéressant comme nom, ça veut dire Dieu est intègre. Dieu est intègre et ce Yotam a réussi à se cacher pour donc échapper au massacre. Donc entre nous, si je compte bien, on nous a dit qu'il y avait 70 frères à Sichem, il en tue 70, il y en a un qui est là, donc en fait il y en a sûrement 71. C'est pour vous dire que ce chiffre de 70 est quand même symbolique. Après, donc vient le moment du sacre, ça c'est le verset 6, où toutes ces personnes se rassemblent pour adouber donc notre Abimélec comme roi. Donc là aussi, ça fait appel à d'autres passages du texte biblique. On voit que en allant ici, Abimélec veut s'enraciner dans une certaine tradition, c'est Josué, on lit ça dans Josué 24-26, qui avait établi la stèle dont il est parlé quand il avait fait alliance avec Sichem. Donc là aussi, on voit que Abimélec, il rame un petit peu pour essayer de se trouver une légitimité historique en se faisant proclamer ici à Beth Milo. Et il n'en reste pas moins qu'à ce moment-là, Abimélec, il trahit son père et les Sichémites, ils trahissent aussi Yerubbaal et l'alliance qu'ils avaient faite avec lui. On entre maintenant dans cette deuxième partie et ce qui inaugure ça, c'est qu'on vient annoncer la royauté d'Abimélec à Yotam. Dieu est intègre. Alors, Yotam, il va tout de suite prendre la figure du prophète. C'est assez marquant. Et il va parler en tant qu'intermédiaire de Dieu. Écoutez-moi si vous voulez que Dieu Elohim, dans le texte, vous écoute. Vraiment, le texte nous montre que Yotam rentre à ce moment-là dans le cercle prophétique. Et surtout que finalement Yotam ne réagit pas à ce qui serait le plus attristant pour lui, c'est-à-dire au massacre de ses frères, il réagit surtout à la prise de pouvoir de Yotam à cause du choix des maîtres de Sichem. Et si je dis figure prophétique, c'est qu'il y a les verbes de mouvement, il alla, il se tint au sommet de la montagne. Et puis après, des verbes de la parole, il éleva la voix, il cria et il leur dit. On sait qu'il leur parle puisque ça nous est dit trois fois. Mais quand le texte biblique est aussi redondant, ça veut vraiment dire que voilà, il prend ici le statut de prophète. Et il leur dit quoi ? Il leur raconte une histoire. Merci. Il leur raconte cette fable. Alors, on pense que cette fable a été ajoutée postérieurement. Vous avez vu sur les fiches que je vous ai données, j'ai mis en synopse à côté la fable des arbres et de l'olivier. La fable, c'est une fable qui est attribuée à Ésope. Alors, Ésope, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Mais vous savez, c'est sûrement en. Alors, ça, c'est pas les bonnes feuilles, madame, c'est mes feuilles.
J'en ai bien une, si on est.
Alors, je sais pas si, s'il en reste des feuilles, s'il vous
Non,
plaît.
non, Liliane, garde, j'en ai pas.
Voilà, alors, la fable d'Ésope. Alors, Ésope, oui, c'est quelqu'un qui aurait existé, mais bon, on ne sait pas trop, au 6e siècle avant Jésus-Christ. En tout cas, ça serait tout un ensemble de fables, d'histoires, de sagesse qui circulaient là, dans le Moyen-Orient, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, a priori, postérieurement à la première rédaction de ce texte. Et elle aurait sûrement circulé dans les cercles d'exilés à Babylone, et elle leur aurait permis un peu de critiquer par un moyen détourné ce qu'ils avaient vécu et ce qui s'était passé. Là encore, et je trouve important de le souligner, la rédaction de la Bible, c'est quelque chose qui est d'assez génial et de totalement humain. C'est une patte humaine. Les Israélites, ils vivaient dans un contexte où ils entendaient des histoires ici et là. Ils ont beaucoup voyagé, hein, à Babylone, avant en Égypte, et ils sont aussi immergés dans cette culture. Et du coup, le texte biblique va s'en ressentir. Et c'est assez extraordinaire de trouver comme ça un texte d'une autre origine qui a été repris dans le texte biblique. Voilà, c'est pour vous dire que la Bible n'est pas un texte, boum, qui tombe dessus, mais c'est quelque chose qui est retravaillé et qui est pétri d'histoire humaine. Mais il y a quelque chose quand même qui va pas bien avec cette fable. Parce que quand on la lit comme ça, on se dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Parce que la fable parle d'arbres qui vont voir d'autres arbres et qui leur demandent de régner sur eux. Abimélec, quand il est venu, il n'a rien demandé à personne, il a pris le pouvoir. Et voilà, donc, a priori, elle est un petit peu curieuse. Alors, on va rentrer peut-être dans cette fable. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, il me semble qu'elle a deux significations. Il y en a une immédiate. Les arbres donc veulent se choisir un roi et vont démarcher trois arbres puis le buisson d'épines. Chaque démarche, vous l'avez entendu, est construite de la même manière. Les arbres disent règne sur nous à l'impératif. L'arbre répond par une question qui énonce un renoncement à l'essence de ce qu'il est. Qu'ai-je en moi s'il accepte d'être leur roi? Être roi est aussi montré de manière ironique. Et là, la traduction de la Tob est très bonne, puisque vous avez vu dans la fable d'Ésope, c'est pour aller régner sur les arbres. Et dans le texte biblique, on dit pour m'agiter. Hein. C'est moins spectaculaire, pour m'agiter au-dessus des arbres et non régner. Alors régner est un petit peu perçu comme une agitation qui n'est pas productive. Rapprochement avec la politique actuelle n'est pas à faire. Qui dénature l'arbre complètement, alors que la fonction première de chaque arbre est de produire quelque chose qui fait sens. Et de plus, il y a quelque chose peut-être de plus profond. Si un arbre s'agite au-dessus des autres, eh ben, comment il fait avec ses racines s'il est obligé de s'élever? Il n'est plus enraciné parce qu'il meurt. Voilà. Et une autre différence minime avec la fable d'Ésope, c'est que la fable d'Ésope, vous avez vu, nous parle d'épines et ici de buisson d'épines. On va voir que c'est pas si minime que ça, peut-être. Il y a aussi une signification métaphorique. Dans Israël, il y a toujours eu ce qu'on appelle un courant de sagesse, un courant sapiential en fait, qui utilise les choses de façon un peu plus métaphorique, symbolique. L'arbre, en fait, a une symbolique très forte qui l'a gardé encore maintenant. Hein. C'est un peu l'intermédiaire entre le spirituel et le terrestre. Il a les pieds dans la terre et la tête dans le ciel. Il a aussi cette dimension nourricière, c'est lui qui apporte les fruits. Il a aussi ce cycle de vie, hein, chaque saison, voilà, voilà, l'arbre de vie, c'est ça. Il renaît, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et la fable, au-delà de sa peut-être morale première, la critique de la royauté, peut être lue aussi plus symboliquement. Voilà, alors, on va rentrer dans cette fable, toujours. Les arbres enjoignent à l'olivier de régner sur eux. Il refuse avec l'argument qu'il ne veut pas perdre son huile appréciée des dieux et des hommes en échange du pouvoir. Juste petite parenthèse, des dieux et des hommes, on voit que c'est une fable qui vient du monde païen, puisque c'est dit des dieux et des hommes. L'olivier représente dans la symbolique juive l'évolution culturelle, car il faut cultiver son fruit pour en obtenir l'huile. À savoir l'homme qui apprend à transformer sa nature première par la réflexion, l'action et la sagesse. L'huile a trois principaux usages, lumière, lubrifiant, nourriture. Les rois, par exemple, étaient oints avec l'huile comme signe de transmission de la justice divine, comme intermédiaire, ils étaient alors faits comme intermédiaire entre l'humain et le divin. Et puis aussi, l'olivier représente un homme d'une ascendance respectable et honorable. C'est aussi, et c'est toujours d'ailleurs, un symbole de paix. Et je vous rappelle juste son utilisation lors de la venue de Jésus à Jérusalem, que nous allons fêter ce dimanche, le dimanche des rameaux. C'est des rameaux qui sont pris dans le mont des Oliviers pour acclamer Jésus quand il arrive. Ensuite, suite au refus de l'olivier, les arbres enjoignent aux figuiers de rester sur eux. Ils refusent avec l'argument de ne pas se priver de sa douceur et de ne pas renoncer à son bon fruit. Il y renoncerait s'il accepte de s'agiter au-dessus des arbres. Alors, comme la vigne, le figuier est souvent associé à la prospérité, à la fécondité, notamment par la multitude de ces graines qu'il y a dans les fruits. Mais aussi, desséché, il désigne la détresse. Hein, vous vous rappelez la parabole en Luc 13 du figuier stérile. Et quelque part aussi, c'est l'arbre du devenir. C'est Jésus qui parle dans Marc 13 au verset 8. « Comprenez l'enseignement que donne le figuier. Dès que la sève circule dans ses branches et que ses feuilles poussent, vous savez que la saison est proche. » Voilà. C'est un peu tout ça. Le figuier qui est aussi un arbre à double facette. Vous savez, quand vous cueillez une figue, c'est un petit peu la surprise. Des fois, vous croquez dedans et vous tombez sur un fruit pourri et amer. Donc, il y a aussi ça derrière. Et quelque part, le figuier est associé à l'image d'un homme qui a les moyens financiers. Il y a la vigne, c'est le troisième arbre sollicité par les autres arbres. Alors, elle refuse avec l'argument de renoncer à son vin qui réjouit les dieux et les hommes. Alors, la vigne, c'est peut-être, et c'est sûrement l'arbre, l'arbuste le plus cité dans la Bible. Hein. On en a dénombré 400 occurrences. Elle apporte le symbole de la joie, par exemple de la libération de l'esclavage. Sur le plateau du Céder, vous avez du vin qui est mélangé, voilà, pour rappeler la couleur brune des briques. La vigne aussi symbolise souvent le peuple d'Israël et Dieu et le vigneron. Vous trouvez ça dans Ésaïe, le vin nouveau. Voilà, le vin est vraiment au cœur de l'alliance Dieu-homme. Il reflète la joie profonde promise. Et puis, je vous rappelle juste la scène, l'Eucharistie, le symbole fort du sang du Christ, qui est ce fruit de la vigne. Il y a un lien fort ici qui a été fait avec le Nouveau Testament. Suite à ces trois refus, il y a une nouvelle alliance des arbres. Alors, on pense que les trois qui ont refusé aussi s'intègrent dans le grand cortège des arbres qui vont trouver le buisson d'épines pour l'enjoindre de régner sur eux. Alors, là aussi, a priori, le buisson d'épines, c'est pas quelque chose de très réjouissant, très fun, hein, un buisson d'épines, ça pique. En Palestine, il en existe plus de 200 sortes. Et vous savez, quand on est en zone aride, eh ben le buisson, c'est quelque chose qui pousse assez bien. Alors, par exemple, il est utilisé pour la nourriture des chameaux et pour le bois de chauffage. Donc, finalement, le buisson d'épines. Il est peut-être moins prestigieux que l'olivier, le figuier ou la vigne, mais il sert quand même au quotidien des hommes et des femmes qui le croisent. Il fait mal aussi, comme on l'a vu avec ce qui est arrivé aux habitants de Soukhot. Alors, la réponse du buisson est ironique. Il accepte avec la condition d'une loyauté, d'une soumission fidèle à lui. Les arbres peuvent, avec cette inclinaison loyale du cœur, chercher refuge dans son ombre. Une ombre de buisson, ouais, c'est pas très grand. Il est petit et son ombre aussi. Il ne renonce, lui, à rien. Il ne porte pas de fruits. Et s'il n'y a pas cette loyauté, il y a la menace d'un feu qui mangera, détruira le cèdre du Liban. Pourquoi le cèdre du Liban et pas les autres arbres ? Alors, le cèdre du Liban, lui, c'est vraiment la force, la grandeur et le nombre. Vous savez, quand les psaumes parlent des cèdres du Liban, c'est pour dire la magnificence de ce pays, ce qui est noble. Et bien, par le feu, le buisson d'épines possède un pouvoir de nuisance, de destruction de ce pouvoir, mais aussi détruire. Le cèdre, ça a une telle image du pouvoir que ça peut en devenir orgueilleux. Et donc par le feu, ben, voilà, le buisson peut aussi détruire l'orgueil. Et peut-être que le feu du buisson ici n'est pas un mal, c'est ce qui purifie, c'est ce qui démasque nos idées de grandeur non productives de bons fruits. Le feu peut être aussi révélateur de désirs profonds. Et dans ce sens peut-être, ce feu du buisson rappellerait un autre feu de buisson, le buisson ardent, qui révèle la vocation de Moïse, d'où s'ensuit la libération du peuple. Voilà. Alors, au verset 16, questionnement rhétorique de Yotam, qui met les maîtres de Sichem face à leur responsabilité d'avoir proclamé Abimélec roi, avec la question de loyauté et de l'intégrité au cœur de ce choix, le « si » peut être aussi traduit par « est-ce que ?». Verset 17-18, Yotam va parler en son nom propre, « mon père, la maison de mon père ». Il rappelle ce qu'a fait Gédéon Yerubbaal, dénonciation du massacre et du choix d'Abimélec pour cause des liens familiaux. Il y a trahison des Sichémites, complices de ces meurtres. Le verset 19, c'est une reprise du verset 15 du buisson d'épines. C'est la même construction rhétorique, c'est uniquement avec la bénédiction. Et le verset 20, c'est en fait la malédiction exprimée par Yotam. Abimélec détruira les maîtres de Sichem et la maison de Milo, et Sichem mangera Abimélec par le feu dans les deux cas. Le feu du buisson, à savoir métaphoriquement Dieu. Et pour dire détruire, c'est le verbe manger. Hein. On voit bien cet anéantissement. Et ça finit par la fuite. Il y a deux verbes pour dire ça. Yotam fuya et s'enfuya de devant son frère parce qu'il en avait peur. Je peux parler encore 5 minutes ou... Ouais. Je parle trop, mais bon. Alors... On va essayer de faire une petite synthèse, bien enfin c'est un texte, je pense, qui pourrait appeler à de grandes choses. Il y a cette idée du conflit légalité-légitimité, en fait. Voilà. Est-ce que, finalement, parce que d'un point de vue de Sichem, en fait, Abimélec ne prend pas le pouvoir de façon autoritaire. Enfin, il commet un meurtre, mais après, c'est les propriétaires de Sichem qui le nomment. Il peut dire, attendez, attention, moi j'ai été, je suis arrivé par la voie des urnes, comme on dit. Et voilà, il y a ce conflit entre la légalité et la légitimité. Il y a aussi sûrement une querelle interne et une critique du royaume du Nord qui a souvent eu l'inclinaison de choisir des tyrans. Et voilà, les habitants de Sichem ont choisi un autre choix que ce que le choix de Dieu leur dictait, ils sont ensuite punis. Il y a une question de pouvoir. La symbolique de la fable pose notamment la question de la gestion du pouvoir terrestre et du pouvoir spirituel. L'arbre intermédiaire, lien entre le terrestre et le spirituel, porte du fruit, révèle sa nature profonde et offre ses bienfaits en renonçant au pouvoir terrestre sur ses congénères. S'il accepte d'être roi, alors il est en danger de mort, car il s'agiterait au-dessus des autres arbres et devait donc être déraciné. Un figuier, une vigne sont plus petits qu'un chêne ou qu'un cèdre. La domination terrestre est laissée au buisson opportuniste et destructeur, mais qui peut en même temps révéler et purifier les intentions profondes de loyauté de chacun par son feu. Chaque arbre reste dans son intégrité à partir du moment où il agit en fonction de ce qu'il est, producteur d'un fruit spécifique. Le véritable pouvoir n'est-il pas donc dans celui qui possède les vertus de ses arbres et du buisson, une noble ascendance, des moyens financiers et intellectuels, et aussi le pouvoir de destruction et la capacité à révéler la parole de Dieu. Et peut-être que derrière, on voit la figure de quelqu'un comme Salomon, qui a peut-être synthétiser en lui tout ça. Voilà, il y a aussi des difficultés, bien sûr, en entendre ce texte aujourd'hui. Comment concilier cette vision d'une histoire cruelle, d'un Dieu qui laisse faire les massacres, et qui punit les massacres en plus par d'autres massacres, qui punit les erreurs humaines et les désirs opportunistes d'une minorité. Sans vouloir pointer le problème, je pense qu'ici, on a quand même la volonté, dans ce livre, des juges, plus d'une instruction symbolique des choses, et de dire, attention, quand vous élisez quelqu'un à votre tête pour prendre le pouvoir, que celui-là soit quelque part adoubé par Dieu. Je pense que c'est l'intention du texte. Et puis, pour finir sur cette symbolique de l'arbre, bien sûr, peut-être vous y avez déjà pensé, l'intermédiaire entre le sol et le ciel, et bien pour les chrétiens, il y a la croix de Jésus, qui est ancré dans le sol, mais qui va vers le ciel, avec cette double dimension, la verticalité, le spirituel et l'horizontalité de ce qu'a vécu Jésus. Il y a aussi la filiation de l'épine. Jésus a une couronne d'épines qui lui rentre dans la tête au moment où il est crucifié. Et est-ce que ça ne serait pas ce qu'il faudrait nous garder de ce texte, que quand on est peut-être dans ce conflit qu'on éprouve dans sa vie de légitimité, de loyauté, et que finalement en tant que chrétien, il faut se mettre et se ranger sous cette croix du Christ. C'est tout le chemin que je nous souhaite pour ceux qui vont le faire jusqu'à Pâques. Merci.
Merci Bruno. Et c'est la première fois cette semaine, on a entendu beaucoup de choses, on en a entendu beaucoup aussi aujourd'hui, et c'est la première fois qu'on entend cette opposition légalité-légitimité. Et ça, évidemment, ça nous fait penser à Hitler qui est parvenu par des voies légales dans une république au pouvoir. Après, ce qu'il en a fait, c'est une autre chose, mais voilà, ça pose question. Alors, ça pose question, qui a une question à poser au pasteur Bruno Gérard?
Donc, il me semble que vous avez dit qu'après le chapitre suivant, on a au moins 3 ans de prospérité. Donc c'est un peu la question justement de savoir si toutes ces forfaitures ou ces ne sont pas ou un point valable, enfin que c'est dur à dire, mais pour la nation, quoi, pour le là on a parlé d'Hitler il y a eu quelques années où ça a permis
Je ferais pas le rapport avec Hitler, mais bon.
Oui, mais pour les années de prospérité.
Je crois que votre question est pertinente, mais elle correspond à une lecture de vie et puis d'une histoire que je me garderai de faire. C'est-à-dire que ce qui nous arrive de bien vient de Dieu, et ce qui nous arrive de mal serait une punition. Et je crois que il faut, si franchement on dit que Dieu nous libère de l'esclavage, c'est de celui-là, c'est de cette espèce de cercle vicieux qui nous entraîne là-dedans. C'est de dire de dire ce qui m'arrive de bien, voilà, c'est une bénédiction de Dieu, et ce qui m'arrive de mal est une, c'est peut-être l'Esprit Saint qui vibre, ce qui m'arrive de mal, c'est une punition. C'est peut-être, et ces textes, on le voit bien, faut pas les lire quelque part comme ça. Des fois, et je pense que vous l'avez expérimenté dans vos vies aussi, il y a quelque chose de très bien qui nous arrive, et puis finalement au bout d'un moment vous vous rendez compte que au bout du compte c'était pas si bien, ou alors quelque chose qui vous a fait suer quand vous l'avez appris, et puis finalement vous y êtes senti bien après. C'est très humain, cette tentative de relecture de sa vie en voulant le lire comme un plan de Dieu. Je pense que c'est plus mystérieux et je trouve que c'est plutôt en aval de ça, c'est-à-dire que quand ça va bien, il faut quelque part en remercier Dieu pour les bénédictions qu'on reçoit, et quand ça va mal, il faut lui demander son aide et pas l'accuser, de lui dire pourquoi tu m'as mis dans la mouise. Vous savez, moi j'en suis un peu fatigué de cette question de ces gens qui disent « Ah, mais vous savez, la religion, hein, vous avez fait des guerres, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça ?» Moi je leur dis « Mais quand quelque chose vous est arrivé de bien dans vos vies, est-ce que vous avez pensé à remercier Dieu ?» Là, c'est le grand silence. C'est pour dire aux gens « Sortez un petit peu de cette dimension-là, parce que c'est pas la dimension de la Bible. » Mais ça, je me moque un peu, mais moi j'y tombe aussi, hein, dans la lecture de ma propre vie. Et puis quelque part, moi, c'est un petit peu le péché dans son sens général, c'est quand je commence à me poser ces questions, qui sont des questions tout à fait légitimes, quelque part je me sépare de Dieu. Voilà, c'était ma réponse, mais c'est une lutte.
Merci Bruno.
Merci Bruno, et finalement merci monsieur, parce que vous avez soulevé quelque chose. Je voulais dire cela, effectivement, qu'on ne peut pas, et j'ai appris cela, car c'est difficile quand on lit les textes, penser que la faute est à Dieu, que Dieu n'a pas été là pour nous, qu'il ne nous a pas aidés à des moments terrifiants. Vous avez parlé d'Hitler, bon, je ne vais pas encore revenir là-dessus, mais pour nous, dans le monde juif, ce qui s'est passé pendant la guerre, où était Dieu ? Bon, il y a eu le questionnement. Bon. Je ne reviens pas là-dessus. Moi, je vois ce texte aussi comme quelque chose qui peut être extrêmement personnel, dans une lecture pas seulement pour Israël, pas seulement pour le peuple, pas seulement pour une ville, mais quelque chose à lire à l'intérieur de soi-même. Même le fait que Dieu vous écoute. Il n'y a que là où il est dit « Dieu vous écoute » et ne dire « nous, est-ce que Dieu nous écoute ?» Mais aussi, il parle de l'arbre. Et l'arbre, autant, tu l'as dit, il y a la symbolique à chaque fois pour l'olivier, tu as parlé de l'homme. Mais nous, dans la Torah, il est écrit que l'homme est un arbre des champs. Et on dit même que c'est à l'envers. au niveau des racines. Mais en fait, on est aussi dans cette structure de terre-ciel avec immanence et transcendance. Et je pense que chacun, on peut être dans cette symbolique de l'arbre. Tout ce qui est dit pour les arbres, c'est nous. Puis bon, ça pourrait aller encore tellement plus loin. Je m'arrête là parce que c'est une structure et une réflexion sur cette lecture qui est faite pour soi. Juste une chose, je me permets de le dire, parce qu'il peut y avoir pour beaucoup de monde le quiproquo toujours entre ce mot Palestine et ce mot Israël, surtout aujourd'hui. Tu as employé le mot Palestine, et je pense qu'à l'époque où ça a été écrit, il n'y avait surtout pas Palestine. Du temps de Jésus, oui, ce qui a fait beaucoup confusion, mais pas là. Donc je voulais le dire parce que pour quelqu'un comme toi, important, dans la mesure où tu parles devant beaucoup de monde, si tu dis le mot Palestine, pour nous, c'est très très difficile parce que ce n'est pas du tout ce mot, il n'existait pas.
J'ai parlé des je voulais dire actuellement en Palestine, on a recensé 200 sortes d'armes. C'est à ce moment-là. Donc c'était Palestine géographique actuelle, mais rien à voir avec. J'aurais dû le préciser.
Israël-Palestine. Oui.
Pardon.
Question. Oui.
Moi, au risque de jeter un pavé dans le désert, je me demande si ce texte ne nous apprend rien sur notre sujet et s'il n'a pas que pour effet de finalement faire fonctionner notre imagination sur ce que nous pourrions faire. Je dis qu'il ne nous apprend rien parce que tout à l'heure, il me semble que vous avez évoqué que celui-ci prenait le pouvoir, mais ensuite il sera récompensé, donc on parle de récompense, ou il sera puni, et on vient de dire dans les questions qui viennent d'être posées qu'il ne fallait pas parler de Dieu comme un Dieu qui punit, parce qu'effectivement, à ce moment-là, si tout ce qui nous arrive de mal vient de Dieu, ben, je crois que peu de gens aimeront Dieu, normal. Mais vous avez dit aussi, mais quand des gens sont contents, vous leur dites, mais est-ce que vous avez remercié Dieu? Je pense que là aussi, si Dieu n'est pas celui qui envoie les mauvaises choses, je ne sais pas pourquoi il serait celui qui envoie les bonnes choses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que Dieu nous laisse entièrement libres. Nous sommes libres de créer le monde comme nous le pouvons, comme nous le voulons, que nous avons les moyens de le faire, mais qu'effectivement, lui nous laisse libres de créer le monde tel que nous voulons le créer. Et ce texte-là, notamment avec les images des arbres, ne nous donne pas un chemin précis, mais nous laisse notre imagination vagabonder pour savoir comment nous voulons créer ce monde, un monde avec des cèdres, des figuiers, des vignes. C'est à nous à le créer. Donc je pense qu'il ne nous donne aucun chemin, qui nous laisse libres et qui donne le pouvoir à notre imagination. Et vous nous avez très bien aidés pour effectivement imaginer tout ce que ce texte peut nous apporter.
Merci. J'aurais dû encore plus insister sur la dimension ironique de ce texte. Quand je disais il punit, c'est pour moi ce texte, c'est plus quelque part une pantomime, un jeu édifiant en fait, que quelque chose à prendre de façon littérale. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que je maintiens, je ne dis pas, justement, mon idée c'est de sortir de cet automatisme de dire ce qui nous vient de ce qui est bon nous vient de Dieu et ce qui est mauvais ne vient pas de Dieu. Je pense que peut-être ce texte nous aide justement à sortir de cette dichotomie. C'est ce que je voulais dire en fait. Je voilà dans ce que j'ai dit. Après vous le vous comprenez, moi je suis pas trop d'accord avec vous de dire qu'un texte biblique ne nous apprend rien sur notre sujet, parce que je pense qu'on y est en plein. Vous parlez de la liberté, ouais, y a qu'à ouvrir les yeux autour de nous pour voir ce qu'on en a fait de la liberté de l'imagination. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est très beau dans le texte de l'Ancien Testament, peut-être à la différence des évangiles, c'est que voilà, dans l'Ancien Testament, on a les mains dans le cambouis, dans le sang, dans les luttes de pouvoir, d'argent, ce qu'on a un petit peu moins dans le Nouveau Testament, et que on a une autre liberté qui est quand même confrontée avec des choses qu'on croise dans ce monde, et que c'est quand même bien difficile de ne vivre que d'imagination et de liberté. Et je crois que toute la beauté de ce texte, c'est justement de mettre les mains dans le cambouis et de voir où on place notre légitimité et notre loyauté au sein d'un monde humain et bien perturbé.
Moi, ma première réaction, c'est en lisant cette fable, et puis en l'assimilant, en faisant une comparaison avec le milieu politique, c'est de voir que tous les arbres qui produisent, finalement, renoncent au pouvoir. Et finalement, celui qui accepte, c'est le buisson d'épines, qui finalement, heureusement, tu nous as dit après qu'il avait un certain rôle et qu'il avait une certaine utilité, mais enfin, j'y vois une certaine malice vis-à-vis des responsables politiques qui sont peut-être pas toujours ceux qu'on aimerait voir pouvoir. Voilà, c'est tout.
Oui, il avait fait allusion à ça. J'avais jamais entendu à propos de ce passage le problème des arbres dont le rôle est de donner du sens. Et ces arbres, en plus, ont peur de perdre le but de leur vie s'ils s'élèvent au-dessus des autres. J'avais pas compris qu'effectivement ça les déracinait. Donc, écoutez, donc s'il n'y a plus de questions, une question.
C'est pas une question, mais c'est moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu nous as proposé, parce qu'il y a une mise en garde contre la lecture littérale, et on a toujours tendance à céder contre la lecture univoque. Il n'y a pas d'approche manichéiste, on est toujours dans le gris, on n'est jamais dans le... J'ai bien aimé que tu soulignes ça, bien aimé, Catherine l'a redit là. Le buisson d'épines, il n'est pas noble, mais il sert aussi à quelque chose. Puis c'est vrai qu'on peut y voir un clin d'œil avec la classe politique, parce qu'on les voit tous en train de se placer dans le champ d'olivier, de figuier, d'olive. Personne ne va dans les buissons d'épines. Bien aimé aussi ce que tu as dit au sujet de la Bible, ce que la Bible doit aux textes antérieurs. C'est-à-dire, moi je fais cette lecture-là aussi, ce qu'on doit toujours aux autres. La Bible, elle doit aussi aux autres, ce qu'on doit aux autres, ce qu'on doit à ce qu'est autre. Puis une chose à propos de l'arbre. Moi j'aime bien ce texte, cette pensée de Tagore qui dit « J'ai demandé à l'arbre, parlez-moi de Dieu, et l'arbre a fleuri ». Et à propos du sens, donc Jean-Marc vient de rappeler tout de suite, et un peu en lien avec la réponse à la première question, Thierry Janssen dit « Trop souvent, on entend cette réflexion, on regrette que cette vie n'ait aucun sens. » Alors qu'en fait, ce qu'on devrait faire, au lieu de céder à cette tentation, c'est réfléchir à ce qu'on peut donner comme sens à notre vie, et par là, au sens qu'on peut imprimer à la vie. Et j'ai ressenti ça tout au long de ton propos.
Merci beaucoup.
Alors on peut remercier le pasteur Bruno Gérard pour le gros travail qu'il a fait. On n'en attendait pas moins de lui. Et je trouve qu'il est vraiment dans le sujet de cette semaine, et c'est une belle conclusion. Donc, on applaudit. Alors, pendant qu'on en est aux applaudissements, si vous êtes d'accord, et je pense que vous le serez, je voudrais qu'on remercie l'équipe de cuisine. Et en particulier, j'avais demandé à certaines, connaissant l'humilité, la discrétion, j'ai demandé à Odile de... Mais voilà, parce que c'est toute une équipe, elles sont très nombreuses, elles ne sont pas toutes là aujourd'hui, mais il y a des têtes pensantes, et en particulier une dame qui s'appelle Catherine Biville, qui depuis... voilà, Catherine, merci. Il ne suffit pas d'être toujours au four, il faut de temps en temps être un petit peu à l'honneur. Merci à toute cette équipe qui nous a nourris. Ah mais Solange est là, donc j'accueille notre orthodoxe. Nous, alors, avec nos amis juifs, avec notre ami orthodoxe, nos amis catholiques, je n'ai pas repéré d'évangélique aujourd'hui, mais je les ai peut-être manqués. Et nous-mêmes, eh bien, je trouve que c'est une assemblée bien, bien complète. La semaine thématique se poursuit demain avec le concert gospel à 17h30 ici au Temple avec le groupe Good News. Et puis on terminera avec le culte de clôture dimanche à 10h avec notre pasteur Charlotte Gérard. Ce que je voudrais vous demander, et soyez à l'aise pour le faire, par les moyens qui vous conviennent, par courrier, par mail, par téléphone, ou en nous interpellant les uns ou les autres directement, faites-nous part de vos remarques, de vos suggestions, de vos attentes, de vos souhaits, de vos critiques. Parce que c'est vous qui faites le succès de cette semaine. Et nous voudrions être au plus près de vos souhaits, et tout en respectant bien sûr nos convictions et le but de cette semaine, justement suivre ce que vous souhaitez et ce qui sera nourriture pour vous. Voilà, donc merci de votre présence, bon dessert, bon café et bon courage pour la reprise de vos activités.